Corps et Cortex, le podcast de la préparation mentale.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Corps et Cortex, le podcast de la préparation mentale. Dans ce voyage merveilleux qu'est le mental des sportifs et sportives de haut niveau, j'accueille aujourd'hui un athlète de 22 ans que nous connaissons bien à Mindset. Skieur de son état, il fait partie de la relève du ski français. 1m92 et 90 kg de talent pur s'exprimant en slalom ou en combiné. Il a gagné sa première Coupe d'Europe l'an dernier à Oberhausen en Italie, puis fait ses premières apparitions en Coupe du Monde dans la foulée. Il finit troisième en slalom aux Mondiaux Juniors de 2023, second par équipe en 2024 à domicile en France avant de cartonner pour ses débuts en Coupe d'Europe, toujours en slalom, avec une 7e puis une 4e place à Lévis. Il s'apprête à débuter de suite en Coupe du Monde à Lévis, Finlande, dans quelques jours, le 16 novembre. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Antoine Azolin. Bonjour Antoine.
Bonjour Thierry.
Première question, qu'est-ce que tu ressens lorsque tu entends ce début de palmarès?
Eh bien, écoute, on est un peu fiers et ça me fait plaisir d'être là pour discuter et d'essayer de partager ce que j'ai commencé à engranger comme expérience dans ma carrière. Et voilà, je suis très content d'être là.
Parfait. Seconde question que je pose souvent aux athlètes que je reçois, c'est qui est l'homme derrière ces résultats? Qui est Antoine Azolin aujourd'hui?
Eh bien, Antoine Azolin, c'est quelqu'un qui aime avant tout déconner. Je pense que si on demande à mes amis, j'aime bien partir en vrille un peu dans tous les moments de la vie. Mais moi, personnellement, à l'intérieur de moi, j'aime bien aussi être sérieux, m'intéresser à tout ce qui se passe dans le monde. Je suis assez curieux, je pense. Évidemment, je suis un sportif dans l'âme. Alors, j'adore le sport et j'adore aussi la compétition. Je pense que je préfère même peut-être la compétition au sport en lui-même. Et à part ça, j'aime faire le plus d'activités possible pour être un être humain plus qu'un athlète complet.
Ok. À part ça, donc à part être un sportif, parce que nous, lorsqu'on ouvre un journal ou on lit les réseaux sociaux, on voit uniquement tes résultats. Moi, ce qui m'intéresse, c'est derrière. Est-ce que tu as une copine? Quel est ton entourage? Quels sont tes parents? Qu'est-ce que tu fais en dehors des périodes de compétition?
Eh bien, du coup, je vis à Sevrier avec ma famille, encore chez mes parents. J'ai deux petits frères. Voilà, on est souvent ensemble, on s'entend très bien. Je suis plutôt content de... je remercie mes parents de m'offrir cette vie-là, puisque en plus, j'étudie du coup à la fin de la saison à l'IUT d'Annecy, qui est à deux pas de la maison. J'y vais en vélo, le printemps, c'est génial. Et voilà, à part ça, j'aime la musique, autre que le ski. Le ski prend quand même une belle place dans ma vie, hein. À part l'IUT, voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre que le ski. Voilà.
Ok, et comment est-ce que tu vis cette notoriété naissante, en fait? Alors aujourd'hui, en France, on ne va pas se mentir, hein, tu descends les Champs-Élysées, je pense que peu de personnes vont t'arrêter pour te demander un autographe.
Non, mais même à Annecy.
Mais comment est-ce que tu arrives à gérer ce début de notoriété vis-à-vis, par exemple, de tes sponsors ou de ta famille ou de tes amis proches? Parce qu'ils peuvent avoir cette impression que tu changes. Donc, comment est-ce que tu gères ça?
Eh bien, c'est vrai que je me pose la question des fois parce que, par exemple, en ce moment, je suis en train de rechercher un sponsor. Et alors, quand je m'adresse au sponsor, je peux commencer à donner mon palmarès pour justifier combien je vaux ou ça. Et ça me met un peu mal à l'aise. On est obligé un peu de vanter ses résultats si on veut se vendre. Et donc ça me met un peu mal à l'aise, mais je le fais parce que il faut le faire pour continuer. Ça fait partie de mon sport.
Et pourquoi ça te met mal à l'aise?
Parce que on se vend et on vend aussi des résultats qui ne sont pas encore là. Et du coup voilà, j'aime. Enfin, c'est pas un mal-être très profond et intense, mais. Je suis pas à 100% à l'aise avec ça, de dire, parce qu'il faut, il faut dire, je serai fort, j'ai fait des résultats et je serai fort. Alors qu'on sait que dans le sport, tout peut se passer pour tout le monde. Mais bon, après, il faut avoir confiance en soi aussi. Et ça fait partie, je sais que ça fait partie du jeu, du coup, je le fais sans souci.
Mais du coup, est-ce qu'on n'est pas un petit peu tous dans cette situation? C'est-à-dire que moi, si demain je veux acheter un appartement, je vais aller voir mon banquier, je veux lui demander de l'argent, et lui, il va me demander de le rembourser, mais je n'ai pas encore cet argent, je vais le gagner mois après mois. Donc toi, est-ce que ce n'est pas un petit peu la même démarche vis-à-vis des sponsors que tu démarches?
Bah si, tu viens de résumer exactement ça. C'est vrai qu'on est, au final, on est tous dans cette situation-là, dans la vie, à un moment ou à un autre. Mmh. Voilà. Et puis après, vis-à-vis de cette notoriété, je pense que, bah, en tout cas dans ma situation, à chaque fois que j'ai acquis un peu plus de notoriété, j'ai fréquenté du coup de nouvelles personnes qui en avaient toujours beaucoup plus que moi. Donc ça force à être humble. En fait, j'ai même pas le choix. Donc, voilà, l'année dernière, donc on peut dire que j'ai acquis la notoriété de la Coupe d'Europe en gagnant la Coupe d'Europe. Et du coup, la semaine d'après, même le jour d'après, je me suis retrouvé du coup dans l'hôtel à l'entraînement avec les meilleurs skieurs français, le groupe Coupe du Monde. Et sa force, bah, c'est que des gens beaucoup plus connus que nous. Et donc, j'ai même pas eu le temps de me dire que j'avais acquis cette notoriété-là, parce que j'ai toujours été dans une situation où je me disais, je peux en acquérir plus. Et regarde, ces mecs-là, ils en ont beaucoup plus que toi. Et donc, il faut aller les chercher et aller bousculer un peu tout ça.
Du coup, est-ce que ça dénote pas un petit complexe d'infériorité, tu penses, hein?
Non, pas du tout. C'est franchement, je sais, surtout qu'on s'entraîne, le ski, c'est un sport où je commence à savoir ce que je vaux. Je sais que je skie vite quand je skie vite. Et je sais que, du coup, je me sers de ces personnes-là, qui sont d'ailleurs très, très sympas et tout. C'est super cool d'être avec eux. Ils partagent pas mal leur expérience aussi. Donc, j'essaye de prendre un maximum de leur expérience pour moi, gravir les marches plus vite, grâce à eux aussi, me servir de ce groupe-là. Mais j'ai pas du tout... Je sais que je suis moins bon et moins connu qu'eux pour l'instant sur le... Enfin, moins connu, c'est sûr, mais sur le papier... Mais il y a aucun mal-être avec ça, aucun souci. Voilà, j'essaie de me servir de ces personnes-là pour évoluer. Et voilà, je suis reconnaissant envers la vie aussi de m'avoir permis de côtoyer ces gens-là. Et je vais tout faire pour me faire un nom comme eux.
Justement, alors on rappelle que tu es slalomeur principalement. Tu t'entraînes avec Clément Noël, champion olympique en titre.
Entre autres, ouais.
Ou Amier, qui fait partie de... Allez, un des 5 premiers slalomeurs au monde. Comment, quel regard est-ce que tu portes sur eux, par exemple, aux entraînements? Est-ce que tu compares tes temps? Est-ce que tu compares ta manière d'être? Comment est-ce que tu interagis avec eux?
Ben oui, effectivement, il y a beaucoup de regards de ma part. Je regarde pas que mes vidéos, par exemple, à la fin de l'entraînement. Je regarde les leurs aussi. Après, c'est vrai que techniquement, en fait... À ce niveau-là, on a tous nos qualités, nos points faibles, et on ne peut pas changer notre style de ski. Donc, il ne faut pas se dire, bah voilà, Steven, il a gagné l'entraînement avec une seconde d'avance, je vais faire pareil que lui le lendemain. Non, parce que je ne serais pas capable de faire ça. Par contre, qu'est-ce que je peux faire dans mes points forts? Qu'est-ce que je peux faire ressortir de mieux? Quels points faibles je peux essayer de gommer pour, moi, avec mes atouts, à gagner cette seconde-là? Et petit à petit avancer. Mais voilà, donc j'essaye de... Mais je me compare aussi parce que c'est un luxe de pouvoir se comparer aux meilleurs skieurs du monde. Je pense qu'à l'entraînement l'année dernière, ça allait très très vite chez les Français. Y en a pas beaucoup dans le monde qui pouvaient aller plus vite. Donc je suis très reconnaissant de pouvoir m'entraîner avec eux. Et alors, des fois, gagner des manches, etc. Et donc déjà, c'est cool, c'est comme un peu la compétition, déjà avant la compétition. Et par contre, voilà, ce qu'il faut essayer de faire, c'est prendre un peu quand même de recul avec ça, ce que j'ai pas réussi à faire tout le temps. Et des fois, se détacher un peu du temps et du regard que tu as sur eux, parce qu'il faut aussi savoir que bah, si tu es là, c'est que tu as tes propres atouts. et que t'as pas forcément à leur envier beaucoup de choses. Voilà, il faut juste arriver à donner son maximum et à atteindre à 100% de son potentiel, mais qui est déjà là, quoi.
Alors, on sait souvent que le mental, il fait toute la différence justement entre un entraînement et la compétition. Toi, aujourd'hui, aux entraînements, j'imagine que quelquefois, donc, comme tu l'as dit, tu peux te comparer aux meilleurs, Noël et Amier, mais quand il s'agit de compétition, est-ce que tu as dénoté déjà des changements entre leur tête, leur manière d'agir et la tienne?
Bah oui, moi je sais que des fois oui, il y a eu des changements de ma part. Après, eux, je les regarde pas vraiment, mais justement, ce qui fait leur force, je pense, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de changements entre l'entraînement et la course. Et c'est quelque chose que j'ai noté aussi l'année dernière. C'est qu'alors, il y a des fois à l'entraînement, bah, par exemple, la semaine d'entraînement avant ma qualification en seconde manche, c'est pas là où j'étais le plus rapide. Par contre, c'était des entraînements où je gérais ce que je faisais et j'arrivais à quantifier et à stocker les informations, stocker ce que je mettais en place dans ma tête. C'était quelque chose que je savais que je pouvais répéter. Et en fait, j'ai arrêté de me dire faut aller gagner parce que on est là pour gagner. Mais je me suis plutôt dit, toi, qu'est-ce que tu vises? Qu'est-ce que tu n'as encore jamais fait? C'est de rentrer dans les 30 et alors d'être à une demi-seconde de deux qui vont sûrement gagner la course, tu seras dans les 30. Et donc ça avait marché par la suite. Tandis que j'ai fait d'autres entraînements où je les battais avant la course. Mais par contre, je n'aurais pas pu dire pourquoi je les battais. Et effectivement, la course après, je manquais de repères. Et donc, le fait de les avoir battus avant, ça ne m'a pas du tout aidé. Parce que j'avais mis le curseur, peut-être, j'étais en confiance. J'avais réussi à mettre des manches en bas à peut-être 105-110% de mes capacités. Et ça, en fait, quand tu es au départ d'une Coupe du Monde, tu n'oses pas aller. Et c'est bien de ne pas oser, d'ailleurs, parce que ça te fait sortir, mais tu ne peux pas aller à 105-110%.
Du coup, à l'intersaison, tu as cherché à travailler ça, à savoir pourquoi, qu'est-ce qui faisait la différence et ce que tu avais mis en œuvre justement pour battre ces skieurs à l'entraînement. Est-ce que tu as un début de piste ou est-ce que tu es toujours en recherche de ce petit plus?
Je pense que quand je regarde avec le recul les endroits où je les battais, c'est souvent des neiges, ça vient de la neige en fait. Eux, en tant que skieurs de Coupe du Monde, quand même depuis quelques années, ils ont beaucoup, beaucoup fait de glace, des conditions très difficiles, des tracés très difficiles, etc. Et alors, dans ces conditions-là, ils excellent. Et du coup, là, c'est là où j'avais un peu plus de... Enfin, moi, j'étais pas mauvais, mais eux étaient très, très forts. Et à l'inverse, quand c'était des conditions de neige plus abrasives, que moi j'avais l'habitude de skier là-dessus, j'étais un peu meilleur parce que eux aussi avaient moins tendance à s'entraîner là-dessus.
Du coup, à l'intersaison, tu es allé t'entraîner sur des neiges plutôt glacées, carrelage, ou comment tu fais? Ou est-ce que tu es dépendant en fait des conditions de neige?
Ouais, on est complètement dépendant. S'il fait chaud, etc., même les conditions, l'endroit, c'est pas moi qui prépare la piste, et même les coachs essayent, on essaye toujours que ce soit le plus glace possible, et surtout le plus ressemblant de la course, mais on est vachement dépendant, ce qui c'est un sport de conditions complètement aléatoires.
Alors, petite question, est-ce que justement cette dépendance à des conditions de neige spécifiques ne te met pas un petit peu plus de pression lorsque tu es dans le portillon de départ en disant « Oh, la neige aujourd'hui, elle est pour moi ». Est-ce que ça ne te met pas un extra de pression sur les épaules?
Ça, non, ça ne m'arrive pas trop, justement, quand je sais que la neige, je vais bien m'en sortir, que j'aime bien ça, ça me donne une certaine confiance, quand je sais que ça va répondre sous moi, que j'ai pas peur que mon ski dérape au deuxième piquet parce qu'on voit son reflet dans la première porte. Non, ça me donne plutôt une certaine sérénité où je peux j'ai moins de doutes et il y a moins de choses. Je sais que je vais contrôler plus de choses.
D'accord. On va faire un petit retour dans le passé, si tu le permets. J'aimerais te poser une question, c'est quand est-ce que tu as pris conscience que la préparation mentale ou que le mental pouvait jouer autant, voire plus que le physique ?
Ben alors, assez tard, parce que moi, j'ai été très dépendant du physique pendant toute ma période, notamment du lycée. Je suis arrivé en tant que petite crevette qui pouvait pas trop rivaliser. Et alors, du coup, on m'a toujours répété, même à moi-même, au début, je pouvais pas rivaliser et c'était quasiment que à cause du physique, avec les autres de mon année d'âge qui faisaient 25 kilos de plus que moi. Et du coup, au fur et à mesure, j'étais la tête dans le guidon à la recherche du physique. Et donc je me suis pas trop posé ces questions-là, mais du coup je vais dire que le physique a eu un impact naturellement sur mes performances, et du coup après le mental, et bah forcément on s'y heurte un jour ou l'autre. Donc je vais dire depuis, avec le recul là, ça a joué depuis tout le temps, mais quand j'ai pris conscience, c'est un peu avec les mauvais résultats. Et j'en ai pris conscience pas forcément pour la performance en elle-même. D'ailleurs, je suis venu te voir à ce propos. C'est parce que quand je suis rentré, j'arrivais pas à dormir. Et à la veille des courses, donc déjà ma qualité de vie. Enfin, j'avais peur d'aller au ski parce que j'arrivais pas à dormir et que je passais des mauvais moments. Du coup, il y a aussi une saison qui s'est passée, qui a été plutôt difficile parce qu'à mes débuts en FIS, je sortais beaucoup. Et du coup, je suis revenu te voir pour essayer de prendre mon sport avec plus de légèreté. Donc déjà, j'ai vu que le ski, à travers le mental, avait un impact énorme sur ma vie. Et du coup, forcément, j'ai compris qu'il fallait que j'arrive à contrôler, avoir la main mise sur tout ce qui se passait dans ma tête pour pouvoir, de un, kiffer ma vie. Parce que c'est fantastique ce qu'on vit quand même s'il faut faire beaucoup d'efforts, c'est fantastique. Et après, petit à petit, là, ces dernières années, j'ai vachement pris les choses en main partout pour le mental. Mais c'est arrivé assez récemment quand même.
Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti de par toi-même, ou est-ce que c'est ton entourage, tes entraîneurs, ta famille qui t'ont dit « Écoute Antoine, là, il faut que tu te fasses quelque chose pour... soit progresser, soit te transformer, parce que nous, on sent que tu arrives au bout de quelque chose.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'erreurs qui se répétaient. Et j'ai eu beaucoup de la part des coachs toute ma vie. Mon père, qui est très impliqué, etc. Même toute ma famille, tous ceux qui étaient impliqués. Voilà, on voyait surtout que c'est de plus en plus, c'est pas une mode, parce que il faut le faire. Mais on en parle de plus en plus de la prep mentale, donc on m'a toujours conseillé d'aller voir quelqu'un plutôt que de faire quelque chose. Et moi, du coup, j'ai préféré faire quelque chose, aller voir aussi toi, parce que il faut être humble avec ça, j'ai pas la science infuse. Mais je préfère avoir essayé de choper des connaissances un peu à droite, à gauche, et de me faire mon truc à moi. Mon entourage a quand même vachement joué, mais j'ai pas envie d'être dépendant d'une personne. J'ai essayé un peu tout, la sophro, et sophro c'est un peu une torture pour moi, rester les bras comme ça, les yeux fermés. Et donc voilà, j'ai un peu tout essayé. Et ce que je préfère, c'est de me creuser les méninges et d'essayer de faire mon plan d'attaque à moi, avec les connaissances du plus de monde possible.
Alors, petit aparté, tu es le filleul de Antoine Deneria. Antoine, disons, est ton parrain. Antoine Deneria, champion olympique de descente en 2006. Donc, on peut dire que tu aurais pu avoir cette figure tutélaire en face de toi. Quelqu'un
c'est
qui
pas
a réussi.
Non, c'est pas mon parrain.
Ah, je crois que c'est ton parrain,
non,
excuse-moi.
Non, Patrick Dutoit.
C'est Patrick, pardon.
Bon, j'ai une super relation avec Antoine.
Ah, je pensais qu'Antoine était ton parrain, excuse-moi.
Non. Non, mais bon, il me semble qu'on a souvent associé le fait que je m'appelle Antoine à Antoine Deneria.
C'est ça.
Donc, il y a quand même, c'est aussi important qu'un parrain.
D'accord. Et du coup, est-ce que cette figure, tutélaire, entre guillemets, t'a permis aussi mentalement de dire « Attends, Antoine, il a quand même été fort un certain jour de février 2006 en devenant champion olympique à Sestrières. Est-ce qu'il t'apporte éventuellement quelques conseils à ce niveau-là »
Plus maintenant, mais c'est vrai que il m'a notamment sponsorisé au niveau des casques à une certaine période. Et du coup, il m'aidait, il m'a un peu aidé à me mettre dans ce monde de la compétition, du ski, un peu une passerelle vers un athlète qui avait déjà vécu tout ce que j'allais vivre.
Et mentalement ? Vous avez parlé de mental ?
Pas spécialement, non.
D'accord, ok. En catégorie junior, comment est-ce que tu as structuré en fait ton travail mental? Est-ce que tu as recours, alors forcément vous reconnaissez les slaloms, est-ce que tu as recours à des séquences d'imagerie, des routines, des visualisations, la respiration, tu as parlé de sophrologie ou d'autres choses?
Quand tu dis catégorie junior, c'est à quelle tranche d'âge?
C'est encore l'an dernier par exemple, de 15 jusqu'à l'an dernier, 21 ans, Coupe d'Europe.
Parce qu'au début, voilà, ça se faisait parce qu'on sait qu'il faut arriver au départ avec le tracé en tête. D'ailleurs, c'est un peu brut au début. On se dit même, il faut que je connaisse chaque piquet par cœur. Et sans se poser trop de questions sur le mental. Et petit à petit, je m'adapte aussi à mes environnements. Et par rapport à la reconnaissance, je commence à trouver un peu comment je marche. Et d'ailleurs, il faut un peu tout essayer. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui fonctionnent, il y en a qui notent sur un carnet. Mais moi, du coup, je préfère quelque chose d'assez simple, où je note avec des gros points d'exclamation, des gros points d'attention, les endroits auxquels il faut faire attention, et où pas souvent il faut ouvrir la ligne, les endroits où il y aura beaucoup de vitesse, où il faut appuyer plus avant la porte, pour vraiment me simplifier le travail, parce que je crois que j'ai besoin de simplicité au maximum, et que d'essayer trop de... Comme il y a des athlètes qui arrivent à faire comme une première manche dans leur tête avant la manche, ça c'est formidable, moi ça me coûte énormément d'énergie, et je pense que voilà, dans la simplicité et d'enlever les doutes, je sais que s'il y a une portion normale, même s'il y a une portion normale avec une figure, je l'ai fait tellement de fois que j'ai juste à skier normalement. Et donc, j'ai pas forcément besoin de me souvenir de quand arrive ça, parce qu'on regarde quand même une ou deux portes avant. Donc voilà, à propos de la reconnaissance.
Donc en fait, tu pourrais dire que lors de ta reconnaissance, c'est pas... comme tu l'as dit, piquet par piquet, mais ce sont des sensations que tu comptes garder en toi avant tout. Lors d'une passage d'une banane, tu sais que tu vas être rapide, lors d'une porte ouverte, un peu moins. Donc, comment ça se fait? Ce sont des sensations ou...
Ça, c'est plutôt au départ. J'aime bien essayer de... Alors, on n'y arrive pas toujours, mais moi, j'aime vraiment bien quand j'arrive à avoir des sensations, que tu as répété le tracé d'échauffement et tout, et tu as ta sensation favorite en tête au départ. Et du coup, là, c'est comme si tu étais déjà en train de skier bien et que tu, en fait, le départ n'était que la continuité de ce qui se passe dans ta tête. Mais à la reconnaissance en elle-même, on nous interdit de faire des gros virages, voilà, pour préserver la piste, etc. Donc, moi, j'ai du mal avec ça, surtout plus on arrive en Coupe du Monde, plus on s'arrête longtemps au coach, la reconnaissance, elle dure une demi-heure. Moi, j'ai du mal avec ça, alors faut que j'arrive à dire non, j'ai pas envie, c'est un peu dur de dire au chef non, je m'arrête pas à discuter du tracé avec toi, j'ai besoin d'aller le plus vite en bas possible. Parce que quand je compare avec l'entraînement, par exemple, aux entraînements, c'est beaucoup plus relax, on s'arrête pas au coach, on fait le tracé en faisant un peu en dérapage, mais en faisant des virages de A à Z sans s'arrêter, ou une fois, si on a besoin de revoir quelque chose. Et je retiens beaucoup mieux le tracé comme ça, et je préfère vachement. Donc ce que j'essaye de faire à l'entraînement, c'est de me restreindre aussi sur ce que j'ai le droit de faire à l'entraînement pour m'habituer aux courses. Et j'ai trouvé une petite technique pour contourner un peu cette règle de feuille morte, en fait. Même des fois, on n'a pas le droit de passer du tout dans le tracé, il faut être sur le côté, on s'avance, on s'arrête au piquet, on regarde, on recule et on a le droit de redescendre. Et du coup, moi, j'essaye de faire tout le tracé à une vitesse assez constante avant les portes. Et du coup, comme ça, bah, je dérape jamais dans la ligne de course. Et donc, j'ai le droit de faire ça et ça me convient mieux. C'est encore un prototype technique, mais ça me convient bien.
Ça n'a pas été trop difficile justement d'aller à l'encontre des coachs en disant non, non, moi je m'arrête pas trop de temps à la porte pour reconnaître avec toi, laisse-moi faire comme je le sens parce que c'est moi, c'est ma tête, donc je le fais comme ça, faites-moi confiance. Ça n'a pas été trop dur d'avoir affaire à des personnes comme ça qui sont sur le circuit Coupe du Monde depuis des années en disant non, moi je fonctionne comme ça, faites-moi confiance.
Et bah, pour dire, c'est assez difficile puisque j'ai pas tout à fait réussi à le faire encore.
Ils sont encore un peu réfractaires, tu veux
Non,
dire?
non, non, pas du tout. Ils me le disent justement, hein, si vous voulez pas vous arrêter, il n'y a aucun problème à ça et tout. Mais voilà, j'arrive à diminuer le temps. Mais l'année prochaine, c'est une des choses qu'il faut que j'arrive à mettre en place. J'arrive à mettre en Coupe d'Europe avec les coachs forcément que je connais bien. J'ai pas du tout de problème avec ça. Mais Coupe du Monde, c'est quelque chose que j'ai pas encore fait à 100%.
Est-ce que tu peux éventuellement nous raconter une compète, junior ou Coupe d'Europe, n'importe, où le mental a vraiment basculé? C'est-à-dire qu'il a basculé positivement ou négativement ta course, à un moment où tu as senti vraiment que la tête faisait toute la différence.
Et oui, mais je commence en plus à arriver à mémoriser, enfin à me connaître bien, et je sais quand est-ce que et comment le mental me fait du bien, et quand est-ce qu'il me nuit. Et donc alors on va commencer par quand il m'a nui. Donc on peut rapprocher il m'arrive un peu la même chose à la première Coupe du Monde et à la deuxième. C'est souvent quand j'y pense pas vraiment au départ, je suis très motivé, mais je doute, en fait, avec le recul, je doute de mes capacités. Je ne suis pas confiant à 100%, et donc je suis sorti très précocement du tracé.
En
Donc,
première manche, ça,
oui,
c'était?
première manche,
Ok.
première manche de ma première Coupe du Monde, et première manche de ma dernière Coupe du Monde, j'ai fait pareil, un peu, quelques portes, parce que la charrue avant les bœufs, parce que je n'avais pas confiance en moi, qu'on voit les autres skier, qu'en fait tout le monde skie bien, on ne se rend pas compte qu'on peut skier aussi bien que ça, voire mieux. Et donc tout se complexifie un peu et on veut skier. Enfin, moi j'ai voulu skier plus vite que ce que j'étais capable de faire. Et surtout, ouais, pas prendre le temps d'aller aux bons endroits dans le tracé avec les dossards élevés dans les trous, du coup. Et donc voilà, vraiment cette envie d'aller vite qui en fait est une peur de pas aller assez vite. Et donc quand ça se transforme en une peur, c'est jamais bon et je fais jamais très long.
Parce que tu es en train de nous dire que là, justement, tu étais dans le portillon de départ et en fait, tu avais peur. Tu ressentais cette appréhension ou cette peur, comme tu le dis toi-même.
Oui, c'est plutôt plein de doutes, ouais. En même temps que la peur de l'échec, forcément, enfin, on arrive des fois à l'enlever, mais elle est toujours un peu là, il faut juste qu'elle nous paralyse pas. Mais plutôt, voilà, les doutes quand il n'y a plus rien qui est simple. Et quand t'arrives, t'es les bâtons, le portillon, et t'es pas confiant à 100%. T'as pas encore, c'est pas une décision, mais tu sais pas encore comme, voilà, en fait, cette peur de pas contrôler. En fait, on contrôle jamais, on peut pas contrôler comment ça va se passer et tout, mais la peur de pas contrôler et du coup de vouloir, comme, bah, voilà, quand je veux faire ma manche dans ma tête, me dire ça va se passer comme ça. Avant, quand je cherche trop à savoir comment ça va se passer, ça se passe pas bien parce qu'en fait j'ai peur de pas savoir comment ça va se passer. Et du coup, à l'inverse, une course que j'ai réussi plutôt là dans ma préparation à Ushuaïa en Argentine, j'ai gagné alors que j'étais arrivé 2 jours avant. J'ai fait un entraînement qui s'est pas du tout bien passé et du coup, j'ai pris la première course pour me mettre en place. Je savais que j'allais pas aller très vite. J'ai pris des lignes que j'avais pas l'habitude de prendre. Enfin, je me suis donné beaucoup de marge, donc j'allais pas très vite. Mais par contre, voilà, je me suis fait aux sensations. Et alors, le deuxième jour, quand j'ai gagné, je me suis au départ, voilà, il y avait plus de doute parce que j'avais accepté le fait de pas tout contrôler. Et du coup, au départ, j'étais assez serein et j'acceptais que bah, je ne sais pas exactement comment ça allait se passer, mais j'avais fait des bons échauffements, j'avais pris beaucoup d'informations et de sensations la veille sur la piste qui était similaire le jour même. Et du coup, voilà, j'ai moins de doutes. Et alors, cet état-là, c'est super parce que c'est. En fait, la compétition redevient un jeu. Et puis, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Mais c'est pas grave parce que bah, j'ai signé pour ça et que le ski, c'est un sport vachement aléatoire. Le meilleur ne gagne pas tout le temps. Et une fois qu'on a accepté ça, il y a quand même beaucoup moins de poids sur les épaules. Tout se passe mieux. Souvent, on skie mieux et on se sent mieux.
Alors, du coup, tu es en train de nous dire que, en fait, tu as performé parce que tu as ressenti qu'il n'y avait aucune attente. Comme tu l'as dit, tu étais arrivé 48 heures ou 72 heures auparavant. Ok, je peux y aller parce que personne n'attend absolument rien de moi. Est-ce qu'on peut dire ça?
C'est pas trop en fonction de ce que les gens attendent de moi, c'est plutôt de ce que moi j'attends de moi, de ce que moi je me sens capable de faire. Et en l'occurrence, je me sentais capable et je me savais capable de faire quelque chose de bien à cette course, du moins qu'elle me serve. C'est des courses qui sont une opportunité énorme. Si on arrive à être prêt à cette période-là, moi c'est ma meilleure performance de ma vie quand même. Et donc si j'en attendais un peu de moi, mais oui, avec beaucoup de légèreté, il faut quelque chose qui je veux arriver à trouver dans le prochain hiver et dans ma carrière.
Relâchement, en fait, en un seul mot.
Ouais, relâchement.
D'accord. Quel est ton rituel, justement, de départ, je sais pas, 5, 10, 15 minutes avant le départ? Quel est exactement ton rituel de départ?
Eh
Aussi
bien,
bien physique que
oui.
cognitif, hein.
Ben, j'essaye du coup de pas trop penser longtemps à l'avance. Souvent, j'aime bien arriver assez tard. J'aime bien faire mon dernier échauffement pas très longtemps avant la manche. Je pense que si on regarde physiquement, je m'échauffe, mais pas énormément. Comparé aux autres, il y a des athlètes, j'ai l'impression qu'ils ont fait une séance de muscu avant la manche. Moi, je m'échauffe, voilà, juste avant les articulations pour prévenir les blessures. Donc ça, c'est à peu près, je sais pas, des dossards, une vingtaine, 25 dossards avant.
Sachant qu'en deuxième manche, vous partez tous les combien? Les intervalles sont combien?
Alors, il me semble que la deuxième manche, en Coupe du Monde, c'est très très long, parce qu'il y a stop TV, stop publicité, etc. Je sais plus exactement, mais ça peut être presque double intervalle. Ben en fait, ça dépend du tracé slalom. C'est il y a une personne en piste en deuxième manche. Et alors, si on tombe dans un moment qui est intéressant, ils font double intervalle. Et alors, donc c'est le double du temps que la personne d'avant a mis en piste.
Donc tu peux
Très très
commencer
long.
ton échauffement genre
Plus
25
tard.
minutes, 30 minutes avant ton propre départ, c'est ça?
Oui. Ben j'essaye du coup de pas le faire trop parce qu'on sait que si on s'échauffe trop longtemps, ben ça devient de la fatigue. C'est plus de l'échauffement. On refroidit, souvent il fait froid en plus, donc les muscles se refroidissent. Et on ne peut pas rester faire des squats pendant une demi-heure pour rester chaud, c'est pas possible. Et mental, alors cette année, petit à petit, j'ai pas du tout superstitieux, mais je m'amuse voilà, avec même mes coachs, créer des superstitions qui sont en fait, avec le recul, des points d'attache, qui a fait un peu un fil directeur de légèreté dans la saison. Et du coup, cette année, c'est trois bonbons Haribo que je mange avant chaque manche. Donc c'est marrant, enfin, on avait trouvé ce setup entre guillemets là pour rigoler, mais dans un stage où je skiais super bien et je suis arrivé à Ushuaïa, je skiais pas très bien à l'entraînement. La première course, bon voilà, j'ai fait ce qu'il fallait faire pour être en forme la deuxième course. Et par contre, voilà, avec mon coach, on dit mais là il n'y a plus le choix, il faut prendre ces trois bonbons Haribo-là, que je ne prenais pas avant la course. Et à la course, je les ai pris, j'ai gagné. Donc j'ai dit, bon, bah maintenant, voilà, c'est ma superstition de l'année. Et ça me fait plaisir, ça me fait rigoler aussi. Et puis je sais qu'à chaque fois que voilà, mon coach ou mon technicien va me tendre ces trois bonbons-là, ça va me rappeler que des bons souvenirs, que des pensées positives. Et ça, surtout me faire oublier, je sais pas, tous les enjeux qu'il peut avoir et tout. Donc, ça...
Bah écoute, je pense que tu as ton sponsor tout trouvé là, pour la prochaine, tu as démarché.
Ils sont difficiles à avoir, non. Ce serait top, mais ils sont difficiles à avoir.
Ok. Quand tu échoues, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça te fait au plus profond de toi? Tu chutes ou alors tu as un temps qui est vraiment pas bon pour toi? Qu'est-ce qui te passe par la tête?
Alors, il y a des échecs qui sont plus faciles à encaisser que d'autres pour moi. Vis-à-vis aussi de mon expérience, de comment ma carrière s'est déroulée, les échecs qui me font le plus mal, les échecs qui m'énervent, c'est quand j'arrive, je suis au départ et que j'ai toutes les cartes pour réussir et que je me sens bien et que je fais un peu le bêta quoi, ou des trucs, ou alors j'ose pas assez, ou des... Quand j'ai les cartes en main pour réussir et que je réussis pas parce que il y a une erreur de ma part, ça m'énerve. Donc j'essaie aussi de prendre un peu de recul. Par exemple là, Ushuaïa, je sais pas ce que j'avais, j'étais assez irrité, je m'énervais beaucoup parce que j'avais des bonnes sensations, mais alors que je sortais. Au final, bon, j'ai compris pourquoi. Donc ça, il y aura pas de souci avec ça. Et il y a des, donc ça c'est quand je sors, voilà, quand je sors ou que j'arrive pas à garder la bonne ligne parce que je veux toujours aller plus vite, ça m'énerve et donc c'est assez difficile, c'est pas très agréable hein, quand s'il y a des échecs comme ça qui se répètent, c'est vraiment vraiment pas très agréable, ça fatigue.
Et comment tu y remédies? Du coup, c'est le soir, tu fais un débriefing?
Ouais,
le
débriefing, déjà d'arriver à comprendre, ça fait beaucoup, beaucoup du chemin pour ça. Et alors, je me suis mis à l'apnée récemment, et je sais que faire une petite séance de méditation et d'apnée, ça me relâche beaucoup, et ça enlève beaucoup de... Je pense que ça met tous mes niveaux cognitifs à plat, voire même, je ne sais pas ce qui est responsable de la relaxation et du relâchement, ça me met ce niveau-là même peut-être un peu haut, et c'est, du coup j'essaie de faire ça, j'ai fait ça un peu, ça a toujours marché du moins pour ma façon d'être, que ce soit agréable à vivre quoi.
Alors du coup, ce stress que tu peux éprouver au départ, jusqu'à maintenant, on n'en a parlé que d'une manière négative. Mmh. Est-ce qu'il y a une manière pour toi de le transformer en énergie positive, en stress positif, qu'on le nommera peut-être adrénaline ou pas stress, mais autre chose? Est-ce que tu peux en faire une alliée plutôt qu'une adversaire?
Et je crois que ça se fait assez naturellement. Ce dont on a parlé là, c'est pas le genre de stress qui nous prend, qui arrive dans le corps avec le, on a du mal à respirer, le cœur bat très fort. Ça c'est du stress. Ce dont on a parlé, je voudrais l'éradiquer complètement. Donc c'est que des pensées parasites. Alors tandis que ce stress là, je l'adore. Le stress de l'enjeu. Et c'est vraiment un moteur pour moi, et que tu perds un peu au fur et à mesure du temps, que tu t'adaptes à ces nouveaux circuits, et puis aussi je fonctionnais dans le temps vachement comme ça, à l'enjeu, à la hargne, j'étais beaucoup dans la réaction, et j'ai essayé de changer de mode de fonctionnement, parce que déjà c'est épuisant de toujours être à la haine, à la hargne, et de finalement de ce qui est bien que quand il y a de l'enjeu, parce que bah il y a beaucoup, je parle d'enjeu, c'est quand tu t'es déjà t'es dans une situation où on t'attend, où t'as un peu du coup de pression des spectateurs, de ton entourage sur les épaules, tu t'es mis dans un moment où on te regarde, bah il y en a pas tout le temps, et donc si on est performant que dans ces moments-là, pas performant souvent. Du coup, j'ai essayé de transformer, j'y suis plutôt bien parvenu, parce que j'avais plus l'énergie, en fait, ça me pourrissait la vie au bout d'un moment, parce que les échecs, quand la hargne de vaincre se transforme en autodestruction de sa propre image, de son estime de soi, c'est pas top. Du coup, là, je marche de plus en plus, j'essaye de devenir un robot, un robot mental. Dans le sens, pas où j'ai plus d'émotions, dans le sens où je contrôle mes émotions et je marche à la répétition de ce que j'ai appris à l'entraînement. Et voilà, d'essayer d'avoir vraiment le moins de pensées possible et de ne pas être dans la réaction, d'être dans l'action. D'un moment, ça ne sert à rien de rêver, fais et tu verras ce qui se passe après.
Ok, là on parle en période compétition, mais est-ce que tu es comme ça à l'entraînement? Est-ce que tu essayes encore de laisser aller ton corps on a coutume de dire en débranchant le cerveau? C'est pas exactement la réaction qu'il faudrait, mais ouais. Bon, est-ce que voilà, tu, à l'entraînement également, tu essayes de dissocier ce que tu ressens de ton action?
Et à l'entraînement, j'ai toujours eu plus de facilité. Bon, j'ai eu souvent des entraînements difficiles, évidemment, quand on apprend, mais j'ai jamais trop marché à la hargne parce que c'est plus facile de se concentrer sur... on essaye de s'améliorer et du coup de se concentrer sur les points techniques. Du coup, j'essaye d'éviter de déconnecter mon cerveau. Parce que comme je l'ai dit précédemment, voilà, j'ai déjà déconnecté mon cerveau, ça a marché sur le temps d'un entraînement. Sauf que tu peux pas déconnecter ton cerveau complètement à la course. Et du coup, quand tu le reconnectes, tu te souviens plus de rien, tu n'as rien sur quoi t'appuyer. Donc j'essaye justement de le connecter un maximum, de moins en moins rechercher à aller vite. C'est difficile pour moi, j'adore la compétition, etc. J'ai toujours envie de mettre le chrono, mais même des fois, voilà, je m'interdis de mettre les chronos, au moins, que tu ailles vite ou pas, le but, c'est de ce qui est bien.
Juste pour garder cette notion plaisir, en fait, tu arrêtes le chrono juste pour ça, pour garder la sensation de vitesse, etc., et pas avoir forcément les yeux fixés sur des chiffres, c'est ce que tu veux nous dire?
C'est pas pour ça, mais c'est vrai que ça joue là-dessus. Et que le plaisir est facteur ultra important pour la motivation de continuer à s'entraîner autant. Mais c'est plutôt pour trouver une stabilité et aussi varier, parce que toujours vouloir aller le plus vite possible. Je m'en suis entraîné là, par exemple, avec Henry Christopherson, qu'on sait qu'il va aller vite, qui sera performant à la première Coupe du Monde, et pourtant, à Ushuaia, il prend toujours Taro. Et donc, c'est facile de se dire « Ah, j'ai mis 2 secondes à Christopherson !» Mais quand tu vois au départ, et, tu sais qu'il sera très vite, et qu'il sera sûrement plus vite que toi à la première Coupe du Monde, et du coup, c'est inspirant de se dire, avec le recul, souvent on regrette de ne pas avoir varié les intensités. Quand on voit tous les jours de ski qu'on a eu, mais sauf que ça va vite aussi de se dire j'ai ce jour de ski là, allez bon j'essaye, je veux gagner les chronos, puis demain c'est une autre neige, je veux aussi gagner les chronos, puis si je loupe cet entraînement là etc. En fait t'as tellement le temps, il faut de plus en plus j'essaye de varier pour ça, en fait, être à l'aise partout, dans toutes les situations.
Est-ce que c'est pas justement le propre des plus grands, à savoir quand tu leur mets un dossard, ils sont beaucoup plus forts qu'à l'entraînement. C'est-à-dire, c'était le cas des frères Beu, Tarié Beu, Johannes Beu. Tous leurs entraîneurs disaient, tu leur mets un dossard, ils sont des secondes et des secondes plus rapides qu'à l'entraînement. Et leurs propres coéquipiers, justement, s'en rendent compte. Mmh. Et déjà, tu as la course gagnée, même auprès de tes coéquipiers, dès le départ. Donc, est-ce que c'est pas le cas, justement, dans tous les sports? Les vrais, les grands, tu leur mets un dossard, c'est plus les mêmes.
Ben oui, après, je pense que c'est pas forcément plus les mêmes, c'est qu'ils gèrent tellement ce qu'ils font, que là, ils géraient, il essayait pas d'aller à fond, même s'il aime bien le dire, mais il essayait pas d'aller à fond, et par contre, du coup, il maîtrise mais presque 100% ce qu'il fait, et du coup, quand tu lui mets un dossard, en fait, quand il a décidé d'aller vite, il sait qu'il fait ce qu'il veut avec ses jambes, ses pieds, ses skis, et il va vite. Et c'est plutôt, je pense, le fait que c'est lui qui décide qui il est, à quel moment. C'est ça qui est très fort. C'est ce que j'admire chez eux, d'arriver à skier à 50% en faisant des manches toujours les mêmes. En fait, d'arriver à skier à 50, 60, 70, de décider, de jauger entre ça... C'est encore plus dur que juste se dire je vais à fond à toutes les manches et puis j'espère en gagner une. Et puis au final, du coup, t'as une manche sur la séance où t'as battu les meilleurs du monde. Sauf que son entraînement à lui, donc toi tu vas dire ça à tes parents, machin, ils vont dire t'es en forme, c'est bien. Alors que lui, fait son petit bout de chemin, il sait exactement ce qu'il a fait et son entraînement a sûrement été bien plus productif que toi.
Ouais, ils savent monter le curseur quand il le faut en fait.
Oui.
C'est ça. Ok. Alors justement, si tu devais recommander 3 exercices mentaux à un jeune skieur qui écoute ce podcast.
Dans la vie de tous les jours ou vraiment pendant une course de ski
Bah, qu'importe, en fait, juste pour s'entraîner, pour devenir meilleur mentalement, en fait. Mm. Un jeune skieur nous écoute aujourd'hui, tu aurais 3 choses à lui dire, 3 conseils. Quels seraient ces conseils, justement?
Bah, alors, je pense que le premier conseil, du coup, c'est d'essayer de s'amuser un peu avec, de prendre du recul et de voir que des fois, c'est pas toi qui contrôle tout à fait comme tu le voudrais. Comme tu l'aurais voulu avant et après avec le recul. Et du coup, de s'intéresser à ce qui se passe dans ta tête à travers, par exemple, d'autres choses que, si on est un skieur, d'autres choses que le ski, parce qu'on a tellement l'habitude, on répète. On a peut-être un peu la tête dans le guidon, des fois, avec ça. Et du coup, moi, par exemple, quand je joue au tennis, j'essaye de faire le rapport entre le tennis et le ski. Et je joue même aussi un peu un jeu de voiture et qui est, je trouve, mentalement très très proche du ski.
Sur ordinateur, tu veux?
Ouais.
Tu veux dire?
Ouais, on se moque souvent de moi quand je dis que je m'entraîne mentalement pour le ski sur mon jeu de voiture. Mais moi, je sais que si, des fois, j'ai des mindsets qui sont exactement pareils au ski que dans mon jeu de voiture. Et avec le recul, ce mindset-là, il n'a pas marché au ski, et j'avais le même à la voiture, et ça n'a pas marché non plus, j'ai pas été performant. Et du coup, il faut arriver à s'en amuser aussi de ça, pour après essayer de trouver les leviers sur lesquels tu peux accéder, pour contrôler un peu plus, pour se connaître en fait. Avant, tu peux pas, je parlais d'être un robot, tu peux pas être un robot, mais tu peux te connaître beaucoup plus que ce qu'on pense. Ça, c'est un premier conseil qui est assez vague. Mais...
Donc, premier conseil, s'ouvrir un petit peu.
S'ouvrir et s'analyser, se demander comment je fonctionne et s'amuser à se dire « Ah, putain, j'ai fait ça. C'est vrai que j'aurais pas fait comme ça et que j'ai pas été tout à fait maître de moi. » Ou alors, j'ai réussi pour ça, j'ai raté pour ça. S'intéresser à comment ça fonctionne, comme si on n'était pas soi-même. Comme si on prenait du recul sur notre cerveau et qu'on était deux entités différentes. Et puis aussi, du coup, pendant le ski, on a souvent tendance à passer pas mal de temps dans le lit, sur nos téléphones. Je pense que surtout les jeunes, mais il y a des temps d'écran immenses. Et du coup, c'est vrai que le cerveau, il faut l'alimenter un peu. Moi, ceux qui ont des devoirs à rendre et tout, ils n'ont pas besoin parce que leur cerveau marche. Je pense qu'il faut continuer à travailler ça, à trouver des exercices, n'importe. Et moi, c'est Neuronation, une application avec un peu de tout pour faire travailler les méninges.
Rappelons que tu joues du piano également. Hein.
Oui. Donc,
quand tu as un piano à disposition, j'imagine que tu n'hésites pas à faire quelques gammes.
Ouais, je fais des gammes. J'ai appris des musiques par cœur, en fait. Donc, je suis pas très polyvalent. J'ai appris les bonnes musiques pour impressionner, mais en fait, je suis pas un grand pianiste. J'ai appris les bonnes. Mais j'ai trouvé aussi que ça me procurait beaucoup d'émotions. C'est quelque chose que je fais. Ça et l'apnée, c'est vraiment pour me faire une activité qui me coupe complètement de la performance, de la rivalité avec les autres, où je me ressens vraiment pour moi et je prends que du plaisir. Et le piano, alors ça me procure tellement d'émotions que si je joue trop longtemps, ça me fatigue mentalement. Et alors, du coup, j'essaie d'éviter, si on est en course, de faire des séances trop longues, voilà. Mais s'il y a un beau piano, je vais aller jouer quelques notes tout le temps.
Donc, ton deuxième conseil, ce serait d'éviter une espèce d'oisiveté, en fait.
Oui, ça rejoint de se connaître, en fait. C'est pareil, c'est avec de l'expérience. Mais il faut continuer à se creuser les méninges. Je sais que, en fait, le ski, ça te donne la flemme de tout faire. Et surtout, il faut arriver à dissocier le cerveau du corps. Et très souvent, on est fatigué soit nerveusement, du coup on fait plus de sport physique, soit on est fatigué physiquement, du coup on s'est dit, on a toute la matinée, on a fait du sport. Alors même le cerveau, il doit se reposer, tourner en boucle sur les réseaux sociaux. Et c'est très difficile de se motiver, mais justement de prendre le rythme pour, si tu fais marcher ton cerveau à un instant où il n'est pas censé marcher, mais c'est toi qui as décidé de le faire marcher, et comme ça, le jour où tu veux faire marcher quelque chose, un levier que tu auras trouvé en t'ouvrant à ce qu'on a dit précédemment, là, hop, tu pourras parce que tu te seras entraîné. Mmh. Faut s'entraîner mentalement, pas que beaucoup ont des préparateurs mentaux, pas que être passif, dans faire les exercices qu'on te donne, etc. De s'entraîner comme un jeu, jouer avec ça.
Et un troisième petit conseil, du coup
J'en aurais pas en tête. Enfin, je pense que mon premier conseil, je me suis assez égaré. Il était très large.
Alors, deux, c'est déjà pas mal.
C'est déjà bien deux.
Un petit mot pour finir. Alors, on n'en a pas parlé, mais on est le 10 octobre 2025, à l'heure où on enregistre ce podcast. Et l'année prochaine, il y a une petite compétition qui s'appelle les Jeux Olympiques.
Oui, cette saison. Oui,
c'est ça. Et tu peux postuler à une place parmi les slalomeurs. Comment est-ce que tu gères ça?
Eh bien oui, tout à fait. En plus, si on regarde sur le papier, je suis plus proche d'aller au JO que ce qui est en réalité. À peu près, on va dire, on est 2 à 5, 6e place égalité, et il y a 4 Français au JO. Et donc, qui, eux, sont bien installés en Coupe du Monde. Voilà, c'est ça le gap qu'il y a, c'est qu'il n'y a qu'une place qui sépare niveau national, mais que cette place-là, très dure à aller chercher, surtout que ce n'est pas des peintres devant. Mais par contre, je peux me permettre de rêver de ça. J'essaye de pas trop... je me prépare pas à le faire, j'essaye de pas m'imaginer... J'ai pu le faire avant sur d'autres compétitions. Tu t'imagines y être, tu t'imagines qualifié et tout. Je vais faire ma saison comme je dois faire, concentré sur les Coupes d'Europe, les Coupes du Monde. Et puis, en fait, si je fais ce que j'ai voulu faire sur les courses, sur les Coupes du Monde et les Coupes d'Europe, normalement, ça marchera. Et sinon, si j'ai fait ce que j'ai voulu faire, et que je suis qualifié, tant mieux. Sinon, c'est que les autres ont été très très forts. Et du coup, c'est pas grave, parce que j'ai fait ce que j'ai voulu faire. C'est la vie, quoi.
Alors du coup, les JO, on en parle beaucoup. Souvent, les novices en sport te parlent beaucoup plus des JO que toi, tu n'en parles. Parce que les JO, c'est ce qui concentre les non-spécialistes en sport. Les non-spécialistes en sport vont toujours te parler des Jeux Olympiques, alors que les spécialistes en sport vont plutôt te parler du classement général de la Coupe du Monde de ski, par exemple. Donc, les attentes viennent souvent plus de l'extérieur que de toi-même. Comment est-ce que toi, tu arrives à gérer tout ça? J'imagine que tes sponsors, quand tu les démarches, vont dire « Alors, les JO, c'est bientôt ?»
Oui, d'ailleurs, je m'en sers, moi. Je m'en sers dans... Du coup, ça pourrait apporter une certaine pression de dire, si on veut avoir des meilleurs contrats, de dire, regardez, c'est une année olympique, potentiellement, si vous me sponsorisez, vous pouvez, il y aura peut-être votre nom aux Jeux Olympiques. Il faut évidemment s'en servir, même si c'est pas sûr du tout à 100% que j'y aille. Mais après, au-delà de ça, ça me porte pas une pression énorme. En fait, c'est juste un bonus énorme, mais ça reste un bonus pour l'instant.
Surtout qu'à 22 ans, il y a d'autres Olympiades qui peuvent
attendre.
Oui,
notamment
derrière.
En France. Après, c'est tous les 4 ans. Je pense que les JO, t'en fais pas des 1000 et des 100. Et puis, surtout que si je dois être performant ceux de 2030, je serai dans la force de l'âge. Et je pense que d'avoir participé une première fois, c'est toujours très très bien. Que ce soit pas la première fois, le moment où tu veux gagner. Et puis voilà. les JO, c'est... Ben après, ça reste la compétition. Je pense que ce serait la meilleure chose que je me souhaite dans ma carrière de skieur, plus qu'un globe. Les Jeux Olympiques, pour moi, c'est la médaille d'or des Jeux Olympiques, c'est plus précieux qu'un globe à mes yeux. On fait un sport, c'est pas un sport où, avec des, comment dire, professionnels, comme les équipes de foot, etc. Là, c'est vraiment le ski, c'est toujours la nation, la nation, la nation. Et du coup, je trouve que les Jeux Olympiques, ça renforce, ça va de pair. Et du coup, la Marseillaise aux Jeux Olympiques, pour moi, il n'y aurait pas plus beau dans ma vie, dans ma carrière, en tout cas.
D'accord. Bah, écoute, Antoine, je te remercie pour ce petit moment, pour ce petit voyage à l'intérieur de ta tête.
Merci à toi.
Après, si tu as un message à faire passer, on rappelle que Antoine est en recherche de sponsors. Donc, des sponsors en particulier ou n'importe qui souhaite investir dans le ski est le bienvenu.
Oui, bah, tout simplement, si vous préférez donner votre argent à un skieur, un sportif plutôt qu'aux impôts, et bah, moi je suis là. Donc, vous pouvez me trouver sur le site de soutien-à-ton-sportif.fr. Voilà, vous pouvez déduire 66% des impôts. Donc, c'est toujours bon à prendre.
On peut te contacter directement via ta page Insta ou Facebook, ou je ne sais pas.
Oui, Instagram, Facebook, j'y vais moins. C'est Antoine avec le -8 AZL.
Je pense qu'on n'aura aucun mal à trouver si vraiment sur Instagram, par exemple, on veut te chercher.
C'est pas très compliqué.
Il n'y aura pas de souci. Mais écoute, merci beaucoup, Antoine. Et puis, on te souhaite toute la réussite possible pour la saison à venir. Et puis, de toute façon.
La Coupe du Monde de Lévis, voilà, qui arrive mi-novembre.
C'est ça, le 16 novembre, il me semble.
Oui.
D'accord. Eh bien, good. On gardera un œil sur tes résultats. Et puis, on te souhaite.
Merci bien.
Tout de bon pour la suite, comme on dit.
Avec plaisir, merci à toi.
Merci beaucoup Antoine, à bientôt.
Ciao.
Corps et Cortex, le podcast de la préparation mentale.